Vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Les célébrations de la fête de Maolid, la Grande Mosquée de Paris organisera une célébration samedi prochain après la prière du Dor. Gros plan dans votre journal sur cette fête avec le président du Rassemblement des musulmans de France, ex-président du Conseil français du culte musulman, Anouar Gbibesh. Le Parlement libanais a voté hier la tenue d'élections législatives le 27 mars prochain. Nous y reviendrons avec Eli Masbounji, le président fondateur de Trilogue News. Le Liban frappé par une nouvelle hausse significative des prix des carburants, une hausse de près de 25% pour le sans-plomb et de 15% pour le diesel par rapport à la semaine dernière. Des bombardements de l'armée syrienne ont eu lieu ce matin dans la région d'Idleb. 8 personnes, dont 5 civils, ont été tuées. Les accompagnants d'élèves en situation de handicap étaient en grève hier. Ils dénoncent la dégradation constante de leurs conditions de travail et demandent l'obtention du statut de fonctionnaire. Entretien dans votre édition avec Julien Pérez, secrétaire départemental de la CGT Éducation. Les célébrations de la fête de Maolid, la Grande Mosquée de Paris organisera une célébration samedi prochain après la prière du Dor. Elle invite les fidèles et leurs familles à se réunir pour, selon les mots de son recteur, maître Shamseddine Hafiz, partager ce moment de félicité autour d'interventions et d'éloges sur la vie du prophète. Gros plan sur cette fête avec le président du Rassemblement des musulmans de France, ex-président du Conseil français du culte musulman, Anouar Gbibesh.
Cette commémoration de la naissance du prophète nous permet de nous remémorer quels étaient les enseignements de l'islam, quels étaient les enseignements sur lesquels le prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a insisté. C'était d'abord un message de pardon, un message de miséricorde, parce que le prophète de l'islam a été attaqué, il a été insulté, il a été caricaturé, il a été traité de tous les noms. Et à chaque fois, il a répondu à la provocation et à la haine par des actes de pardon et de miséricorde. Je pense que là, la commémoration de la naissance du prophète est l'occasion justement de revenir sur ses préceptes et ses enseignements et réinsister sur ces valeurs que symbolise le prophète de l'islam. Il convient également de rappeler que le prophète de l'islam, quand il a justement émigré de la Mecque vers Médine, quand il s'est installé à Médine, il a tenu compte justement de la diversité de la société médinoise, où il y avait des chrétiens, des juifs, des musulmans, des croyants, des non-croyants. Et il a mis en place ce qu'on a appelé le pacte de Médine, qui est une véritable constitution du vivre ensemble, dans le respect des croyances et des convictions des uns et des autres. Et là aussi, c'est une très belle leçon qu'on peut retenir à l'occasion de la commémoration de la naissance du prophète. C'est ce respect de la diversité, ce respect de l'altérité, ce respect de l'autre d'une manière générale dans ce qu'il est, dans ses convictions, dans ses valeurs, dans ses comportements. Et je pense que à la fois le message de pardon et de miséricorde et le message du renforcement du vivre ensemble sont les deux piliers qu'il faut retenir de cette commémoration de la naissance du prophète de l'islam.
Et vous estimez qu'il est particulièrement important aujourd'hui de mettre en lumière le parcours, la vie du prophète?
Aujourd'hui, plus que jamais, justement, parce que nous assistons à des actes de terrorisme, des actes de barbarie qui sont commis au nom de la défense du prophète de l'islam, il est important de rappeler cela et d'éviter à nos jeunes, aux générations futures, toute mauvaise interprétation et tout amalgame entre les prêcheurs, ce que veulent obtenir les prêcheurs de la haine, et revenir aux vraies valeurs de l'islam, qui sont des valeurs de paix, de miséricorde, de respect de l'autre et de renforcement du vivre ensemble. Plus que jamais, nous avons besoin de se remémorer ces enseignements du prophète.
C'est une fête qui n'est pas canonique, cela reste une fête particulièrement importante.
Oui, il y a les deux grandes fêtes dans l'islam qui sont la fête d'Aïd al-Fitr à la fin du Ramadan et la fête d'Aïd al-Adha qui commémore donc le sacrifice du prophète Abraham. Et au-delà de ça, donc il y a ce moment fort de l'année qui est la naissance du prophète. Ce n'est pas une fête religieuse en tant que telle, mais c'est un moment fort pour justement se rappeler, se remémorer et revisiter ce que nous indiquent les valeurs de l'islam, qui sont pour moi totalement compatibles avec les valeurs de la République, malgré ce que veulent véhiculer certains prêcheurs de haine, des hommes et des femmes politiques. L'islam et la République sont totalement compatibles. On peut être un très bon musulman et un très bon citoyen français. Et il faut faire la démonstration de cette osmose et de cette symbiose qui peut se faire.
Cette compatibilité que vous évoquez, estimez-vous qu'elle est trop souvent remise en question aujourd'hui dans ce contexte de pré-campagne présidentielle?
Oui, tout à fait. Nous voyons bien que le sujet, ça devient même un sujet de campagne, un sujet central de campagne, de la compatibilité de l'islam et de la République. On constate une libération de la parole à ce niveau-là, véhiculée par certains pré-candidats qui ne se sont même pas encore déclarés candidats à l'élection présidentielle et qui se permettent d'afficher et d'affirmer que l'islam est totalement incompatible avec les valeurs de la République, chose que nous dénonçons totalement. Et je pense qu'il est important qu'un certain nombre de voix, d'hommes d'esprit de paix et d'hommes d'État rectifient le tir et derrière prennent la parole justement et démontrent par leur action qu'ils peuvent compter sur la composante musulmane de la société française, cette composante musulmane qui fait partie entière de la communauté et partie intégrante de la communauté nationale, et qui en partage les valeurs, qui en partage le destin.
Et quel est le meilleur moyen, selon vous, de répondre à ce type de propos?
Il y a la parole, mais il y a aussi les actes. La parole, c'est important de démonter, je dirais, point par point, tous les arguments qui sont avancés par ces teneurs de cette thèse du remplacement et de l'incompatibilité de l'islam et de la République. Il faut répondre du tac au tac, si j'ose dire. Mais il faut également démontrer ceci par la parole, sur tous les actes sur le terrain. Et donc, les citoyens français de confession musulmane ont une responsabilité énorme de ce point de vue. Et ils doivent être les ambassadeurs du vivre ensemble, les porteurs de ces valeurs de modération et de tolérance et de respect de l'autre. Ils doivent le démontrer au jour le jour d'une manière positive, en participant d'une manière constructive au vivre ensemble et à la vie de la cité, à côté de leurs concitoyens de toute confession et de toute conviction.
Le président du Rassemblement des musulmans de France, ancien président du Conseil français du culte musulman, Anouar Ibibesh. Des bombardements de l'armée syrienne ont eu lieu ce matin dans la région d'Idleb. 8 personnes, dont 5 civils, ont été tuées. L'armée a pilonné un quartier animé de la ville d'Ariha. Les bombardements ont touché la ville ravagée par la guerre au moment où des enfants se rendaient à l'école. Ces bombardements ont aussi fait 26 blessés. Toujours en Syrie, au moins 13 personnes ont été tuées aujourd'hui dans un attentat à la bombe qui a visé un bus militaire à Damas. C'est la plus importante attaque de ce type dans la capitale syrienne depuis plusieurs années. Le Parlement libanais a voté hier la tenue d'élections législatives le 27 mars prochain. Les Libanais de l'étranger seront autorisés à voter pour les 128 députés de l'hémicycle. Une fois un nouveau Parlement élu, le Premier ministre Najib Mikati gouvernera par intérim jusqu'à ce qu'un nouveau chef du gouvernement reçoive la confiance des parlementaires et soit chargé de former un nouveau cabinet. Des élections dans un pays en crise, le Liban reste confronté à une sévère crise économique accentuée par de récentes pénuries de carburant qui ont réduit la production électrique publique et provoqué des coupures de courant. Entretien avec Eli Masbounji, le président fondateur de Trilogue News, président de l'Association de la presse étrangère.
Les Libanais étrangers veulent voter et veulent être considérés comme faisant partie du Liban. Ce n'est pas uniquement pour envoyer de l'argent et venir faire des dons. Et quand le pays va mal, ils se tournent vers eux. Et quand ça va bien, ils leur donnent 10 députés. C'est l'atmosphère qui règne en France et en Europe et dans les pays où j'ai des amis libanais.
Pouvez-vous nous rappeler l'enjeu de ces élections législatives le 27 mars prochain, cela alors que le Liban reste confronté à une crise économique majeure, cette crise accentuée par les récentes pénuries de carburant, la réduction de la production électrique publique et ses coupures de courant?
Encore faut-il arriver jusqu'au 27, parce que les Libanais sont soumis à une mort lente. Il faut souhaiter que parmi les Libanais résidents, un noyau de 10 à 20 députés au moins, parce que je ne vois pas un changement comme l'espèrent certains. S'il y a un noyau de 10 députés élus sur place, et je crois qu'il y en aura, ils peuvent créer à l'Assemblée un courant pour un véritable changement. Le changement n'étant pas fait de l'extérieur et ne pouvant pas fait par des mouvements de rue ou de l'extérieur, le seul espoir, c'est qu'il y ait un groupe entre 10 et 20 députés qui ne représentent pas la classe politique et les messieurs qui se partagent le pouvoir depuis des années. S'il y en a 10 qui ne font pas partie de ces groupes-là, il y a un espoir d'imposer un début de changement. Mais sinon, s'il n'y a pas beaucoup de votes localement et s'il n'y a pas un contrôle international comme on le fait dans les pays où les autorités n'ont pas envie de changer de représentation parlementaire, les factions politiques ou les groupes politiques vont s'arranger pour avoir la même assemblée et les choses continueront.
Et la tenue de ces élections législatives fait partie des conditions de la communauté internationale pour que soit débloquée l'aide à destination du Liban.
Oui, mais il faudrait que la communauté internationale ait des garanties. Jusqu'à maintenant, il n'y a aucune garantie. Même le gouvernement actuel n'a rien fait au niveau, non pas de changement, mais le changement du système. C'est-à-dire que la communauté internationale hésite à remettre les aides aux autorités. Et ils ont essayé avec des ONG, ça n'a pas été mieux parce que les ONG aussi, elles sont sous la coupe des forces politiques qui, c'est malheureux à dire, mais même par les ONG, ça n'a pas marché. Alors, tant qu'il n'y a pas de gouvernement qui commence à travailler, et aujourd'hui on sait qu'il est divisé, tout le monde veut attendre les prochaines élections, et les prochaines élections, il y a un grand point d'interrogation après.
Eli Mazbounji, président fondateur de Trilogue News, président de l'Association de la presse étrangère. Le Liban frappé par une nouvelle hausse significative des prix du carburant. Une hausse de près de 25% pour le sans-plomb, de 15% pour le diesel par rapport à la semaine dernière. Une annonce aujourd'hui du ministère libanais de l'énergie et une annonce sur fond de mesures qui visent à réduire les subventions au carburant en plus de l'augmentation des cours du brut sur les marchés mondiaux. La crise du carburant est l'une des répercussions les plus importantes de la grave crise économique que traverse le Liban, une crise qui a provoqué un effondrement financier et un manque de devises étrangères suffisantes pour importer des produits de première nécessité, comme par exemple les médicaments. La médecin et militante algérienne Amina Bouraoui, condamnée à 2 ans de prison, une nouvelle condamnation en appel. Amina Bouraoui a déjà été condamnée pour plusieurs chefs d'accusation, dont atteinte à la personne du président. Les accompagnants d'élèves en situation de handicap étaient en grève hier et ils demandent l'obtention du statut de fonctionnaire. Entretien avec Julien Pérez, secrétaire départemental de la CGT Éducaction.
Le rôle des AESH, on va considérer que c'est indispensable, leur mission, puisqu'ils aident les élèves en situation de handicap. Ils sont donc indispensables à la bonne inclusion de ces élèves et finalement, au bout du compte, à ce que l'égalité des chances et l'égalité de traitement soient opérationnelle entre les élèves en situation de handicap et les autres.
Et vous déplorez aujourd'hui une dégradation de leurs conditions de travail, cela se traduit comment ?
Dégradation, c'est clair. En fait, les conditions de travail n'ont jamais été bonnes, c'est-à-dire que depuis la loi de 2005 sur l'inclusion des élèves en situation de handicap, les assistants avant de vie scolaire et aujourd'hui les accompagnants d'élèves en situation de handicap n'ont jamais eu un vrai statut, c'est-à-dire qu'ils sont maintenus dans la précarité. Ce sont tous des contractuels qui sont, qui plus est, en train de subir des temps partiels non choisis, c'est-à-dire qu'aucun et aucune d'entre elles n'a un temps plein, ce qui équivaut pour elles et pour eux à des salaires qui sont aux alentours de 800 euros maximum par mois. On est donc dans des situations de précarité extrême.
Et vous demandez aujourd'hui l'obtention du statut de fonctionnaire pour les assistants d'élèves en situation de handicap ?
Tout à fait. L'amélioration des conditions de travail passe forcément par l'établissement d'un statut de fonctionnaire qui leur permettrait du coup d'avoir un temps plein, rémunéré au minimum du SMIC, voire plus, en fonction de l'importance de leur mission, bien sûr. Et ce statut de fonctionnaire permettrait aussi d'organiser beaucoup mieux, notamment le mouvement des personnels, le choix des établissements dans lesquels ils et elles doivent intervenir, etc. etc. Donc, bien évidemment, ça passe par l'obtention de ce statut.
La majorité de ces personnes sont des femmes et une petite partie d'entre elles sont en CDI.
C'est ça, en fait. Au bout d'un moment, la multiplication des contrats à durée déterminée fait que légalement, ils sont transformés en CDI. Mais c'est une disposition relativement récente. C'est à partir du moment où les collègues ont fait, elles ont fait plus de 6 ans de CDD. Donc vous voyez bien que le problème de la précarité, y compris à travers les dispositions contractuelles, est bien présent et bien révélé à travers la multiplication des CDD.
Quelle est leur formation ?
Les formations sont multiples parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a des profils très variés. Il y a des gens, des collègues qui ont même parfois des diplômes de l'enseignement supérieur et qui, faute de trouver du travail dans d'autres secteurs d'activité, sont AESH. Et ensuite, nous, ce qu'on déplore, c'est surtout que les formations internes à l'éducation nationale sont très, très insuffisantes, voire même parfois inexistantes, c'est-à-dire qu'on propulse comme ça des AESH dans des classes où il y a des élèves en situation de handicap sans même les avoir formés au préalable. Donc, effectivement, le problème de la formation est aussi au cœur de nos revendications.
Et vous avez mis en lumière leur salaire qui est en dessous de 800 euros net par mois en début de carrière.
Oui, c'est ça. C'est une question de temps partiel contraint. Donc en fait, ils estiment que de toute façon, les horaires scolaires ne peuvent pas permettre à une AESH de faire 35 heures par semaine. Donc on leur impose de faire 26 heures, 27 heures en les payant à temps partiel. Donc c'est un temps partiel subi, contraint, et ce qui crée bien évidemment des répercussions sur la paye, puisque pour ces 26 heures ou 27 heures hebdomadaire, les collègues sont payés autour de 800 euros. C'est donc des niveaux de salaire qui sont tout simplement pas concevables et pas respectueux ni de leur mission ni de leur niveau de vie.
Julien Pérez, secrétaire départemental de la CGT Éducation. Fin de cette édition. Vous êtes bien sûr Radio Orient. L'invité de Pluriel à 19h et à 23h sera Jean-Didier Berthaud, conseiller de Paris Les Républicains, porte-parole de Xavier Bertrand, candidat à l'élection présidentielle. À 12h30, votre journal en langue arabe, présenté par Mazen Hamoud. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour votre flash en langue française. 17h30 pour votre journal. Excellent début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient. Il est 12h17.